Fait que, on va commencer peut-être par un mot de prière, puis ensuite de ça, ben, c'est ça, si vous voulez vous mettre en sourdine, puis attendez un peu, je peux le faire pour vous. Attendez un petit peu. Je vais vous mettre en sourdine. OK, ça marche. Fait que là, on commence, on va peut-être avoir un mot de prière, puis ensuite, on va lire notre passage. Seigneur notre Dieu, on veut t'aider pour ta bonté envers nous. On te remercie, Seigneur, pour le temps qu'on peut apprendre dans ta parole, puis. On sait que ta parole est riche, notre Dieu, pour nous donner l'instruction pour que tu t'es révélé à nous dans ta parole et on te remercie. Je te remercie aussi pour ton esprit qui nous aide pour la compréhension de ta parole, Seigneur. Puis on te demande de nous bénir ce soir pendant qu'on regarde ces choses concernant les fêtes de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Donc, on a commencé la semaine passée, on a fait l'introduction la première semaine des fêtes de l'Éternel. On a sept fêtes de l'Éternel. On avait parlé d'un panorama prophétique pour nous révéler le plan de Dieu dans sa rédemption. Puis, on a regardé ça. Ensuite, on avait vu les sabbats, parce que quand on lit dans les fêtes de l'Éternel, tout de suite au début, dans Lévitique au chapitre 23, il est mentionné les sabbats. Puis on avait parlé par rapport au sabbat que le sabbat représente un repos après une œuvre accomplie parfaitement, une œuvre terminée, comme dans la création. Dieu s'est reposé parce que l'œuvre était complète, pas parce qu'il était fatigué, mais parce que l'œuvre était accomplie. Puis on voit aussi que le sabbat représente un repos que l'homme doit rechercher après avoir travaillé 6 jours. Le septième jour, c'est un jour de repos. Puis ça nous parle que. Du fait que la rédemption, ce n'est pas nous qui travaillons, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais c'est par la foi, par l'œuvre, dans l'œuvre que le Seigneur Jésus, lui, a accompli parfaitement. Puis le repos, on avait vu que le repos, eh bien, c'est après que le Seigneur Jésus a tout accompli, a dit, tout est accompli, mais aussi, il va y avoir un repos, il y a un repos dans la victoire, quand on a la victoire sur le péché durant notre vie, mais il y a aussi un repos éternel, quand on va entrer dans la rédemption, pleinement dans la rédemption, quand on va voir la rédemption de notre corps, puis on va entrer dans l'état éternel, ça va être un repos éternel. Donc, on va regarder, là, on est dans la première fête, on va commencer ce soir la Pâque, qui est la première fête du premier groupe de 3 fêtes. Ensuite de ça, on a dit que les fêtes étaient divisées. En 3 groupes, c'était 3 fois par année où les mâles devaient se présenter à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. Dans le premier groupe, il y a 3 fêtes. Il y a la Pâque, la fête des pains sans levain et aussi la fête des prémices. Ensuite, 50 jours après, de là le nom de la Pentecôte, il y a la fête de la Pentecôte. Et après, il y a 3 autres fêtes dans le troisième groupe. C'est la fête le jour des trompettes, la fête des trompettes. Après ça, le jour des expiations. Puis ensuite, il y a la fête des tabernacles qui sont à la fin de l'année. Donc, c'est ça qu'on va voir. Juste pour dire, les premières fêtes, les 4 premières dans les 2 premiers groupes, ont été accomplies à la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Puis on va lire Hébreux 9, juste pour se mettre dans le contexte. Hébreux 9, on va lire à partir Hébreux 9, le verset 24-26. Donc, Hébreux 9, 24-26, on voit que les 4 premières fêtes ont été accomplies à la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, autrement, attendez un petit peu, on commence à 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, le Seigneur Jésus, à la première venue, il s'est présenté avec son sacrifice, avec son sang dans le ciel même, qui est dans un sanctuaire qui n'est pas fait en imitation du véritable, qui n'est pas fait de main d'homme, mais dans la présence même de Dieu. mais on voit que les trois autres fêtes sont accomplies, les trois dernières sont accomplies dans la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 28 de Hébreux 9, il dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, ça c'était dans sa première venue, de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On verra que ces trois fêtes-là concernent Israël, parce que les quatre premières fêtes ont une application ou une réalisation pour Israël et pour l'Église, tandis que les trois dernières à la fin ont une application ou une réalisation, vont se réaliser pour Israël seulement. Donc, avant d'aller plus loin, on va lire dans Lévitique au chapitre 23. On va lire les versets 4 et 5. Peut-être on va lire à partir du début du chapitre pour se mettre dans le contexte. Il nous dit, l'Éternel, au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On commence avec le sabbat. Il dit, on travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, le sabbat était très important. On voit dès le début, puis aussi durant les fêtes, il y avait des sabbats aussi. Donc, l'homme pouvait se reposer dans une œuvre tout accomplie par Dieu lui-même. Maintenant, on arrive au verset 4. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On va s'arrêter là parce qu'après ça tombe tout de suite à la fête des pains sans levain. Mais on va aller lire dans Exode quand la première Pâque a été instituée, quand elle a été célébrée, c'était dans le pays d'Égypte, avant qu'ils sortent, parce que c'est ce soir-là qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Au verset 1 de Exode 12, il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Puis après ça, il va parler de la fête des pains sans levain. Mais on va lire les versets 21 à 28 dans Exode 12. Donc, verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne se sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Seigneur, va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, ici, on est dans le premier groupe, comme j'ai dit, le premier groupe de trois fêtes, qui était la première fois, qui était devenu le premier mois de l'année, le début de l'année. Puis c'était une des trois fois où tous les mâles devaient se rassembler à Jérusalem. Ça ne veut pas dire que les femmes ne pouvaient pas venir non plus, mais au moins il fallait que les hommes se rencontrent à Jérusalem. Pour cette première fois, c'était la fête de la Pâque, des pains sans levain et la fête des prémices. Puis ensuite de ça, la deuxième fois, 50 jours après le sabbat, ils devaient se rencontrer pour la Pentecôte. Ils revenaient pour la Pentecôte. Et ensuite, dans le septième mois, après le milieu de l'année, ils devaient se revenir pour célébrer les trois autres fêtes qui restent, c'est-à-dire la fête, le jour des trompettes, la fête des trompettes, le jour des expiations, et ensuite de ça, la fête des tabernacles. Puis ensuite, on arrivait dans un nouveau recommencement qu'on verra à ce moment-là. Donc, comme on a dit, les fêtes représentent le plan de rédemption de Dieu, parce que, comme on avait dit par rapport au sabbat, dans la création, tout était parfait. Dieu s'était reposé le septième jour parce que tout était accompli, tout était complet. Mais quand le péché est revenu, on avait vu ça, que Dieu s'est remis à l'œuvre pour accomplir l'œuvre de rédemption. Puis c'est là qu'on est dans cette œuvre de rédemption-là. Et cette œuvre de rédemption-là va aussi avoir un sabbat, un repos de sabbat, quand tout va être accompli, puis qu'on va être avec le Seigneur dans le ciel. Mais ces fêtes-là nous représentent comment le Seigneur va rassembler ceux qui font partie de ce plan de rédemption, ceux qui se sont prévalus de ce plan de rédemption par la foi dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit que les trois premières fêtes qu'on voit ici, la Pâque, la fête des pains sans levain et les prémices, ça représente un peu les trois temps du salut. La Pâque, ben, on sait qu'on était sauvés de la punition du péché. Donc, ils étaient en Égypte, ils ont été délivrés de l'Égypte, de l'esclavage. Et pour nous, ça représente la sauvés de la punition. Ça, c'est quelque chose qui est accompli. La Pâque, quand ils ont célébré la Pâque, ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus libres, ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, comme nous, on a été libérés de l'esclavage du péché quand on a été au moment de notre salut, quand on a mis notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ accomplie parfaitement. La fête des pains sans levain, c'est la marche qui commence tout de suite après la Pâque. On va voir ça, que la fête des pains sans levain est associée de très près de la Pâque, parce que ça commence aussitôt que la Pâque est immolée, la fête des pains sans levain commence. Puis la fête des pains sans levain, elle représente notre marche dans la vie chrétienne pour nous. Puis ça, c'est, on est sauvé de la puissance du péché dans notre vie. Ça, c'est le deuxième temps de salut. Le premier temps, c'est la punition du péché. Le deuxième temps, c'est la puissance du péché dans notre vie. On a la victoire en se nourrissant des pains sans levain, la séparation du mal. Et ensuite, dans la fête des prémices, la fête des prémices, on voit que le Seigneur Jésus, il est les prémices de ceux qui dorment. Donc, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est un gage de notre résurrection à nous aussi. Puis à ce moment-là, au moment de notre résurrection, on va être sauvé de la présence du péché. Donc, on parle des trois P dans les temps du salut. Premièrement, le premier P, c'est la punition du péché. Ça, c'est une chose faite. La puissance du péché, c'est quelque chose qui s'accomplit à chaque jour de notre vie chrétienne. Et la présence du péché, c'est quelque chose qui va s'accomplir à la fin quand le Seigneur va venir nous enlever pour nous emmener avec lui. Donc, on est. Mais aussi, ces trois fêtes-là représentent la sanctification. Parce que la sanctification, c'est quelque chose de très important. Parce que le Seigneur veut nous sanctifier. Sanctifier veut dire séparer, séparer de, mais séparer pour aussi. Donc, on n'est pas juste séparé du monde pour ne plus être dans le monde, mais on est séparé du monde pour un but, c'est pour être uni à Christ. Quand on est uni à Christ dans cette sanctification-là. Puis, dans la Pâque, on a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Donc, en position à la Pâque, à cause du fait que Christ a été offert pour nous en sacrifice, on est séparé du monde. On n'est plus du monde. On appartient maintenant au Seigneur Jésus-Christ. On est devenu des enfants de Dieu. Puis dans cette sanctification-là positionnelle, on ne fait plus partie du monde. On est un avec le Seigneur Jésus-Christ. On est l'épouse de Christ. Puis ça se fait au moment du salut. Puis c'est pas dépendant de nous, c'est dépendant entièrement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ accomplie pour nous. Mais on voit que ça, c'est acquis à la conversion, au moment où on se convertit. On se tourne vers le Seigneur Jésus, on se détourne de nos péchés pour se tourner vers le Seigneur Jésus, et lui, il nous sauve. Ensuite, la fête des pains sans levain, elle nous parle de la sanctification pratique. La sanctification positionnelle est parfaite. La sanctification pratique, c'est une sanctification qu'on recherche tous les jours de notre vie, puis elle se trouve en marchant avec le Seigneur Jésus, en se séparant du mal, puis en s'attachant au bien, s'attachant au Seigneur Jésus. Ça, c'est la sanctification pratique. Séparer du mal, c'est quelque chose qu'on fait constamment tout au long de notre vie chrétienne pour, plus on va chercher la séparation, plus on va être dans la séparation du mal, plus on va avoir l'intimité du Seigneur Jésus. Parce que lui, il dit, soyez saints comme lui-même est saint. Puis quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Mais la fête des prémices, qui représente la résurrection, qui est la résurrection du Seigneur Jésus, mais qui garantit notre résurrection, eh bien, à ce moment-là, on va voir que la sanctification positionnelle ou la sanctification pratique va rejoindre la sanctification positionnelle. Ça veut dire que notre sanctification va être complète, puis elle va se compléter. On lit dans 1 Corinthiens 15, en un instant, en un clin d'œil. On va être changé, on va être transformé. Ensuite, on va être enlevé à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Puis moi, je vois dans le passage que c'est vraiment ce qui va se faire en un instant, d'un clin d'œil, c'est le changement, la transformation. C'est qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on va être transformé complètement pour être ce qu'on va. On va revêtir l'incorruptibilité, on va revêtir l'immortalité, on va être comme on devrait être pour toute l'éternité. C'est ça, là, dans la position, on l'est déjà, dans la pratique, on le recherche, jure, puis on continue à progresser dans cette sanctification-là, puis le Seigneur va la compléter avant de nous emmener avec lui dans le ciel. Il va compléter. Ça, c'est représenté par la fête des prémices. Donc, on voit qu'il y a une chose, la Pâque, la fête des pains sans levain, des prémices. Si on tourne ensemble dans Romains au chapitre 6, on va aller ensemble dans Romains au chapitre 6 pour voir ces choses-là comme on a dit, ça accomplit la prophétie. Dieu nous révèle l'accomplissement de sa prophétie, autant pour Israël, parce que c'était vrai pour Israël, mais c'est aussi vrai pour nous dans le salut que le Seigneur nous a pourvu. Donc, dans Romains au chapitre 6, au verset 20, Romains 6, les versets 20, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc ça, c'était dans notre esclavage auparavant, avant que notre Pâque soit immolée. Mais il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Maintenant, qu'on a, notre Pâques a été immolé, on a été affranchi du péché. Ça, c'est le peuple d'Israël était sous l'esclavage en Égypte. Quand ils ont immolé la Pâque, ils sont sortis, ils ont été libérés de l'esclavage, puis ils ont commencé une marche. Il y avait le bâton à la main, il y avait leurs choses, ils partaient de l'Égypte, puis ils ont commencé une marche. Puis là, c'est pour ça qu'il dit maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Donc, on était esclave du monde, on était esclave du mal. Maintenant, on était affranchi, comme Israël ont été affranchis de l'Égypte. Ils n'étaient plus sous la servitude de Pharaon. Maintenant, ils étaient pour devenir esclaves maintenant de Dieu. Puis, étant esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Donc, on vit dans une sainteté et pour fin, la vie éternelle. Puis donc, aussi, on a la fête des prémices. On a la sainteté présentement, mais pour fin, on a à la fin la fête des prémices dans la résurrection. On a la vie éternelle. Donc, on était esclaves du péché, comme Israël était esclave du péché en Égypte, et ils ont été affranchis pour devenir esclaves de Dieu. Ça, c'est les pains sans levain, la marche après notre salut. Puis, ensuite de ça, pour les prémices, ben, pour la fin, c'est quoi? La fin, c'est la vie éternelle. On vit dans la sainteté, puis à la fin, arriver dans on a déjà la vie éternelle, mais la fin, ça, on va entrer dans cette vie-là. Donc, quand on pense à Israël dans les fêtes, parce que quand ils ont célébré ces fêtes-là en Égypte, eh bien, la fête de la Pâque, ils l'ont célébrée pour la première fois en Égypte. Donc, ils devaient être rachetés de l'esclavage de l'Égypte. Ça, c'était important. Il y avait besoin d'être racheté de cet esclavage-là. Mais vous savez, le Seigneur aurait pu faire mourir tous les Égyptiens puis donner le pays d'Égypte à Israël. Mais ça ne pouvait pas être comme ça parce que la justice réclamait le jugement sur tous les pécheurs. Parce que tous ont péché, comme on a vu dans Romains 6, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur, dans sa justice, il ne pouvait pas juste tuer les Égyptiens puis donner le pays à Israël, parce que tous les pécheurs méritaient le jugement de Dieu. Tous les pécheurs devaient mourir pour les péchés. C'est pour ça il fallait un moyen de satisfaire la justice de Dieu en montrant sa miséricorde. Donc, il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Mais Dieu pouvait montrer sa miséricorde, mais il fallait qu'il le fasse d'une façon parfaitement juste. Sans ça, ça aurait pas été juste. Parce que tous les pécheurs, en Égypte, il n'y avait pas juste les Égyptiens qui étaient des pécheurs. Israël était aussi des pécheurs. Comme nous aussi, comme Paul nous dit dans Éphésiens 2, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est ça, il fallait maintenant que Dieu donne le jugement, parce que tous méritaient le jugement, mais comment ils pouvaient donner la rédemption, comment ils pouvaient épargner Israël. Mais pour pouvoir épargner Israël, comme pour pouvoir nous épargner, il fallait qu'il y ait un substitut. Il fallait que quelqu'un meure à notre place, comme il fallait que quelqu'un meure à la place d'Israël. Parce que dans Genèse 2, 17, quand Dieu avait averti que le jour où il pécherait ou désobéirait, il dit, tu mourras certainement. Donc, la parole de Dieu est pas sans effet. La parole de Dieu s'accomplit toujours parfaitement. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Tout pour tous, tous les pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il avait dit, tu mourras certainement. Il fallait que quelqu'un meure à leur place. C'est ce qu'on voit dans la fête de la Pâque. Il y a eu un agneau qu'il fallait qu'il meure à leur place. On va le développer en avançant un peu, là. Pour eux autres, c'était devenu, ici dans Exode au chapitre 12 et au verset 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais ce n'était pas le premier mois auparavant. Auparavant, c'était au septième mois qui était le premier mois. Puis l'année civile en Israël commence le septième mois. Mais la nouvelle année, maintenant, c'est le premier mois. Parce que c'est devenu le premier mois avec la Pâque. Parce que c'est une vie nouvelle. C'est pour ça que il faut naître de nouveau, il faut avoir une vie nouvelle pour, c'est quand on entre dans la rédemption de Dieu, ça devient le début d'une nouvelle vie pour nous autres. C'est important pour Israël, ça devienne leur nouvelle vie. Pour nous aussi, c'est important que ce soit notre nouvelle vie. Le rachat, c'est un nouveau commencement. C'était le septième mois de l'année, puis l'année civile, le septième mois de l'année civile est devenu le premier mois de leur nouvelle vie, puis c'est la même chose pour nous autres. Donc, c'est le début, ce mois-là devient le début d'Israël en tant que nation. C'est là que Israël est devenu une nation. Parce qu'auparavant, auparavant, ils étaient juste une famille, ils étaient une tribu, ils n'étaient pas une nation. Mais dans leur rachat, ils sont devenus un peuple. Dieu, il les a rachetés pour qu'ils deviennent son peuple. C'est de là la naissance de la nation d'Israël. Puis il les a rachetés, puis il les a fait devenir un peuple et il va les conduire vers leur héritage. Puis nous autres aussi, de la même façon, c'est dans le rachat qu'on est devenu un peuple, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. On va voir que l'Église a été formée le jour de la Pentecôte par la descente du Saint-Esprit. Puis c'est là que l'Église est devenue un peuple, le peuple de Dieu, pendant qu'Israël est dans un aveuglement pour un temps. Eh bien, Dieu s'est fait, j'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Puis ça, c'est l'Église qui est aussi dans la rédemption. Par la descente du Saint-Esprit, qu'on verra au jour de la Pentecôte, a formé un peuple. On est devenu un peuple. Avant ça, on n'était pas un peuple. Mais maintenant, on est un peuple. On est le peuple de Dieu pour la dispensation présente. Mais Israël sont devenus, à ce moment-là, dans le rachat, sont devenus, dans la rédemption, le peuple de Dieu. Puis c'est là que la nation a commencé à exister comme une nation. Puis Dieu, il leur donne un héritage. De la même façon, nous autres aussi, Dieu va nous donner notre héritage. Nous, notre héritage va être dans le ciel avec le Seigneur, tandis qu'Israël, c'était dans le pays de Canaan. Puis, il y a des parallèles avec les bénédictions d'Israël étaient dans le pays de Canaan, tandis que nos bénédictions à nous, qui sommes un peuple céleste, sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On verra ça en avançant. Mais avant cela, Israël, il existait, mais comme une famille. Ils sont venus en Égypte comme une famille. C'était la famille de Jacob, puis peut-être on pourrait dire une tribu, mais c'était des esclaves. C'était une famille d'esclaves. C'était des tribus qui étaient dans l'esclavage à Pharaon. Mais nous autres aussi, c'est ce qu'on était, comme on a vu tantôt. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre dans Éphésiens 2, 1 à 3. Puis c'est pour ça qu'il faut que pour sortir de cet esclavage-là, il faut une nouvelle vie. C'est ça qu'on voyait avec Israël. Ils ont eu besoin d'une nouvelle vie. Ils ont échappé à la mort qui venait sur l'Égypte, donc on verra en avançant. Mais ce que le Seigneur a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut une nouvelle vie. Puis là, cette nouvelle vie-là, elle est dans la rédemption. Et vous, dans le verset 3, il dit de Exode 12, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, c'est ça qui va nous donner la nouvelle vie, c'est l'agneau. Puis, quand le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis, il lui a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, qui donnait la vie, il fallait regarder au serpent, mais le Seigneur Jésus, lui, a été élevé sur la croix comme l'agneau de Dieu. Puis c'est en regardant à lui qu'on a cette nouvelle vie-là. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, c'est important d'avoir cette nouvelle vie-là. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans une religion où ils vont parler de Dieu, ils disent croire en Dieu, ils disent craindre Dieu, mais ils n'ont pas cette nouvelle vie-là, ils n'ont pas passé par cette nouvelle naissance-là. Mais s'ils n'ont pas passé par cette nouvelle naissance-là, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas, ils sont encore sous l'empire du malin, ils sont encore sous l'esclavage du péché, même si peut-être qu'ils vivent une bonne vie selon leur religion, mais selon Dieu, c'est leurs œuvres ne sont pas faites en Dieu, ne sont pas faites dans la puissance de l'Esprit de Dieu parce qu'ils n'ont pas cette nouvelle vie-là de Dieu. C'est pour ça que c'est important. Je vois beaucoup aujourd'hui, on parle du Seigneur à des gens, puis ah oui, ils craignent Dieu, puis ils aiment ça, mais ils n'ont jamais passé par la nouvelle naissance. Puis c'est ça qui est important. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, un petit peu, 2 Corinthiens 5, au verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, cette nouvelle naissance-là est très importante. On peut être religieux autant qu'on veut. Puis, mais si on n'a jamais passé par la nouvelle naissance, comme le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nul ne peut voir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut. C'est impossible. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, c'est important d'avoir cette vie nouvelle-là. Puis, pour avoir cette vie nouvelle-là, il fallait qu'il prenne un agneau, parce que, comme on a dit tantôt, tous les gens qui étaient en Égypte, pas juste les Égyptiens, aussi les Israélites étaient des pécheurs devant Dieu, puis eux aussi méritaient. Quand le jugement passe, eh bien, il passe sur tous. Pour tous ceux qui méritent la mort, il passe sur eux, mais dans le plan de rédemption de Dieu, il y a un moyen de rédemption, mais c'est au moyen d'un agneau. Les familles devaient prendre un agneau qui allait maintenant mourir à leur place, comme un substitut pour qu'eux n'aient pas à mourir. Mais l'agneau, il était jamais insuffisant. Donc, on voit que l'agneau, là, il était toujours suffisant. C'est jamais deux agneaux pour une maison. Mais on pouvait voir, on a lu, que si la maison était trop petite pour l'agneau, eh bien, on prenait un agneau pour deux maisons. Mais l'agneau était jamais insuffisant. Il n'y a jamais une maison où il fallait deux agneaux. Ça nous parle de la toute suffisance du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est toujours suffisant. C'est ce qui nous donne notre assurance, hein, parce que Paul pouvait dire que lui, il avait été fait grâce comme le plus grand, comme le chef des pécheurs. Il s'identifiait comme celui qui était le plus grand pécheur. Puis c'est pour ça que quand on prêche l'Évangile, on peut prêcher à n'importe qui. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, c'est impossible que je sois sauvé, je suis possédé. Ben, j'ai dit, le Seigneur peut te sauver. Le Seigneur a sauvé des possédés quand il était sur la terre, puis il peut sauver. Il dit, Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, il n'y a pas. Puis ça, c'est merveilleux qu'on peut prêcher un Évangile qui est suffisant pour n'importe quel pécheur sur la terre. Avant, tant qu'il y a la respiration, il y a la possibilité d'être sauvé. Donc, l'agneau n'était jamais insuffisant. Christ est toujours suffisant. Dans Jean 19, 30, le Seigneur Jésus a pu dire, tout est accompli quand il a offert son sacrifice. Si on va maintenant dans Hébreux 10, on voit la suffisance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux au chapitre 10 et le verset 12. Il dit, Hébreux 10, 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il n'a pas eu besoin d'en offrir d'autres, il n'aura jamais besoin d'en offrir d'autres, comme dans la religion, on offre ces sacrifices-là perpétuellement, continuellement, mais lui, comme il est dit ici, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Puis au verset 14, il dit, car par une seule offrande, ça c'est très important, on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, là, c'est juste une offrande, il n'y en a pas eu d'autres. Dans l'Ancien Testament, il y avait constamment des sacrifices, mais le sacrifice de Christ est suffisant, un seul sacrifice, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est pour toujours, une seule offrande, pour toujours, jamais besoin d'être accompli une autre fois. Seigneur Jésus, jamais n'aura besoin d'être offert encore une fois. Donc, il y avait seulement un agneau qui devait être offert en sacrifice, puis c'est le Seigneur Jésus. Pour eux autres, dans l'Égypte, il y avait un agneau pour une maison, puis si la maison était trop petite, on prenait un agneau pour deux maisons. Mais ça devait être un agneau qui était sans défaut, puis un mâle. Un agneau sans défaut, mâle. Il était choisi dès le dixième jour, comme on a lu. Le dixième jour, on choisissait parmi le troupeau un agneau mâle. Puis il fallait qu'il soit, on le gardait dans la famille, on le gardait dans la maison pendant jusqu'au quatorzième jour. Puis au verset 6, voyez-vous, il dit, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc avant de l'immoler, l'agneau devait rester avec eux et il pouvait observer cet agneau-là pour être s'assurer qu'il était sans défaut et sans tache, qu'il était parfait, c'était un agneau parfait. Et ça nous rappelle ici le ministère public du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, le Seigneur Jésus, il a été 3 ans et demi dans son ministère public, puis ils ont pu l'observer. Puis on voit que les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, ils l'ont observé. Ils l'ont scrutinisé pour pouvoir voir un défaut. Ils ont vraiment cherché pour trouver en lui un défaut pour pouvoir l'accuser. Puis ils n'ont pas pu. Son ministère public a commencé quand Jean le Baptiste l'a introduit. Quand Jean le Baptiste, dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Puis dans les versets 35-36, il a dit, voici l'agneau de Dieu, encore une fois. Donc, il a présenté à Israël comme leur agneau. C'était comme le dixième jour du mois, du premier mois. Il leur présentait leur agneau. Puis, ils l'ont observé tout au long de sa vie, son ministère public. Tout au long de son ministère public, ils ont observé pour essayer de le trouver à défaut. Ils ont posé des questions, ils ont essayé de le prendre à défaut. Ils ont essayé de trouver en lui des choses qui étaient du péché en lui. Puis, à la fin, le Seigneur Jésus s'est présenté devant eux. Dans Jean 8, verset 46, puis il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Moi, je ne ferais jamais ça parce qu'il y aurait plein de voix qui s'élèveraient contre moi. Mais le Seigneur Jésus, dans son impeccabilité, a pu dire à tous, devant eux, devant ses accusateurs, devant ceux qui ont passé ces 3 ans et demi-là à essayer de trouver une faute en lui pour pouvoir l'accuser. Il s'est présenté devant eux, puis il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Puis toutes les bouches ont été fermées. Personne n'a pu apporter contre lui une accusation. Puis même, ils ont essayé, quand ils ont emmené à Pilate, ils ont essayé de trouver des faux témoignages pour essayer de l'accuser faussement. Mais ils n'ont pas trouvé. Dans Matthieu 26, versets 59 à 60, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Il y a plusieurs qui ont essayé, des faux témoins, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu trouver même un faux témoignage pour l'accuser. Puis quand il a été condamné, même le gouverneur, même ça, c'est important de voir que ces choses-là ont été écrites pour nous montrer que le Seigneur Jésus a été scrutinisé. Et ils n'ont pas pu trouver, même ses ennemis qui le haïssaient, qui cherchaient à le trouver coupable. Puis même le gouverneur, parce que si le gouverneur aurait pu trouver en lui une faute, eh bien lui aurait été exonéré de blâme, parce qu'il aurait condamné un coupable. Mais dans Jean 18, au verset 38, il dit, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, ça c'est Pilate, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Donc, sous aucune condamnation, on a préféré un brigand à la place du Seigneur Jésus. Donc, ça, c'est important de comprendre ça, que le Seigneur Jésus était impeccable aux yeux des hommes, mais encore plus aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a pu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a rendu témoignage à la perfection du Seigneur Jésus-Christ, puis lui-même a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, le Seigneur Jésus, il fallait, l'agneau devait être immolé le 14e jour entre les deux soirs, qu'il nous dit au verset 6 dans Hébreux, dans Exode 12. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le Seigneur Jésus, et puis même dans Deutéronome au chapitre 16 au verset 6, il nous dit que c'est au coucher du soleil, quand le soleil se couchait, que l'agneau devait être immolé. Puis, mais le Seigneur Jésus, lui, a été immolé pour accomplir parfaitement cette fête-là. Il a été immolé au moment où la Pâque était immolée à Jérusalem. Le Seigneur Jésus a accompli ces choses dans son temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est un aspect, il y a un aspect prophétique dans ces fêtes-là. C'est que ça prophétisait, puis le Seigneur Jésus les a accomplis parfaitement selon le type qui avait été donné dans les fêtes. Le Seigneur Jésus a été immolé à Jérusalem pendant que la Pâque était immolée. Il fallait que la Pâque soit immolée à Jérusalem. Puis le Seigneur Jésus a été immolé aussi à Jérusalem, en dehors de la ville, en dehors du mur. Donc, c'était selon les instructions données, selon les instructions données par la suite dans Deutéronome. Si on va dans Deutéronome au chapitre 16, on va voir les instructions qui avaient été données. Deutéronome au chapitre 16. Et au verset 5 à 6. Deutéronome 16, verset 5 à 6, il dit, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que tu choisiras l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. C'est certain qu'en Égypte, la première fois, il a été offert en Égypte. L'agneau a été immolé en Égypte, mais après ça, ça devait être, quand il était dans le pays, ça devait être à Jérusalem où il devait être immolé. Dans 1 Corinthiens 5, 7, il nous dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Puis il a été immolé dans son temps, dans l'endroit où il devait être immolé, après avoir été examiné et trouvé étant impeccable, il était l'agneau qui était destiné pour être immolé pour nos péchés et il l'a accompli parfaitement selon les instructions. Il a été immolé à Jérusalem, son sang a été versé. Puis on peut dire maintenant, nous, Israël pouvait le dire en Égypte, l'agneau avait été immolé pour eux, puis on verra qu'est-ce que ça représente aussi. Mais nous maintenant, qui sommes rachetés par le sang précieux de Christ, on peut dire, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Puis ça, c'est merveilleux. On n'a pas besoin de venir avec un agneau. On n'a pas besoin de notre agneau à nous autres, c'est le Seigneur Jésus. Puis, selon le type dans la fête de la Pâque, il a été examiné, il a été pris, il a eu son ministère public pendant 3 ans et demi, comme l'agneau devait être dans la maison pendant 3 jours. Eh bien, il a été examiné, il a été trouvé parfait, il a été immolé au moment où la Pâque devait être immolée et à l'endroit où la Pâque devait être immolée, du fait que nous, présentement, on peut dire, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour qu'on puisse avoir un temps. S'il y a des questions ou des commentaires, on va passer, je vais vous donner votre micro, puis attendez un petit peu. Vous pourrez apporter vos commentaires. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Laurent. C'est vraiment intéressant. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est que lorsque les familles avaient cet agneau-là, à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, ils vivaient avec cet agneau-là, un agneau sans défaut, sans tache. Certainement qu'ils devaient s'attacher à cet animal-là, hein. On a tous peut-être un chat, un chien hein, chez nous, là, qu'on s'attache, là, puis les enfants de ces parents-là, bien, ont été dit par leurs parents, eh bien, nous, dans 4 jours, eh bien, cet agneau-là va être immolé.
Oui.
Mais une circonstance spéciale pour ces enfants-là, hein, de savoir que cet agneau-là devait être immolé. Puis moi, ça me touche particulièrement, là, parce qu'on aime les animaux, hein, c'est ça,
Ouais. Mais aussi, on le voit dans les disciples qui ont passé ce temps-là avec le Seigneur Jésus, puis quand le Seigneur leur annonçait qu'il devait souffrir beaucoup de la part des souverains sacrificateurs, puis des chefs du peuple, puis Pierre a dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Puis il voulait pas comprendre ça, il voulait pas entendre ces choses-là. Puis ils n'ont pas suivi le Seigneur quand il leur disait ces choses-là, parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient le garder avec eux. Ouais, comme tu dis, il était attaché à lui à cause de tout ce qu'ils ont vu, puis tout ce qu'ils ont vécu avec lui.
Ouais, un petit agneau, c'est pas mal plus beau qu'un chat ou un chien.
Ouais.
C'est vraiment un bel animal.
Ouais. Et puis, j'ai aussi cette situation. Au-dessus.
J'aimerais t'entendre, Gérald. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui va être religieuse, qui va venir si proche du salut, sans expérimenter la nouvelle naissance?
C'est une question d'orgueil dans un sens, parce qu'on ne veut pas reconnaître notre perdition devant Dieu. Puis c'est là qu'il y a besoin d'avoir un brisement. À un moment donné, il faut qu'on soit brisé. Comme pour mon père pendant 50 ans, au moins qui a entendu l'Évangile, mais il ne voulait pas briser devant le Seigneur. Il ne voulait pas reconnaître son péché devant le Seigneur. C'est là que la pierre d'achoppement de l'Évangile, c'est la repentance. Parce que les gens, dans les religions, on dit, ah, tu as juste besoin de t'améliorer. Tu n'as jamais besoin de reconnaître que tu es perdu devant Dieu puis que vraiment tu es incapable de rien pour ton salut. Puis ça, l'homme n'aime pas ça. Parce qu'on est orgueilleux. On veut tout le temps avoir, tu donnes un cadeau à quelqu'un, il veut te payer. C'est ça qui est la pierre d'achoppement de l'Évangile. Il faut avoir brisé. Puis je pensais à ça dernièrement. On est ensemble. Tous ceux qui ont vécu ce brisement-là, mais il y a une certaine humilité, là. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Puis il n'y a personne de nous autres qui peut se glorifier. On n'est pas mieux, on était tous de leur nombre, on vivait autrefois selon les convoitises de notre chair. Puis ayant reconnu ça, on a vu le salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut le faire. Il faut se repentir. Il faut s'avouer vaincu. C'est comme s'avouer banqueroute pour que recevoir l'aide. Vous savez, si quelqu'un est en train de se noyer dans la mer, puis quelqu'un veut lui lancer une bouée de sauvetage, mais il va la prendre seulement s'il comprend vraiment qu'il est perdu s'il ne la prend pas. Parce que dans notre orgueil, on veut pas la prendre. Mais c'est pour ça que c'est ça qui fait en sorte que les hommes, ils pensent être corrects avec un petit peu de religion sans avoir passé par la nouvelle naissance. Puis il y en a plein de gens comme ça. Ils peuvent dire qu'ils aiment le Seigneur, puis tout ça, mais ils n'ont jamais reconnu leur péché. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que le péché, c'est l'orgueil. Satan a voulu être au-dessus de Dieu. Il s'est enorgueilli. Donc, le remède, c'est la repentance et l'humilité devant Dieu, puis reconnaître le salut que Dieu nous a pourvu par la grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que ça répond à ta question, Steve?
Oui, merci beaucoup.
Personne d'autre qui a des questions ou des commentaires à rajouter?
Peut-être juste mentionner que c'est intéressant de voir que finalement le Seigneur s'est servi du ministère du Seigneur Jésus pour montrer qu'il était parfait. Puis ça a commencé assez raide avec les 40 jours dans le désert, où il a été tenté 40 jours dans le désert. Déjà là, il montrait qu'il était parfait. Donc, pendant tout son ministère terrestre, il a été scruté, on peut dire, pendant tout ce temps-là, puis il a vraiment démontré qu'il était cet agneau sans défaut et sans tache.
Oui, c'est remarquable que personne n'a pu rien dire. Même le gouverneur qui l'a condamné, il l'a déclaré innocent puis il l'a condamné. C'est remarquable. Mais aussi le fait que tout le monde méritait, on va revenir là-dessus un petit peu dans la semaine prochaine, mais tout le monde méritait, ça n'aurait pas été juste que Dieu punissent les Égyptiens sans punir Israël. Mais pour leur faire grâce, il a fallu que quelqu'un prenne leur place. Ça, c'est important. La substitution dans le salut, il fallait que. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé un ange, mais il a envoyé son propre fils pour être notre substitut, pour mourir à notre place. On va le voir là-dedans aussi parce on doit être baptisé dans sa mort. C'est important qu'on soit baptisé dans sa mort pour pouvoir. L'accusateur n'a plus rien contre nous autres parce qu'on est mort en Christ. On va voir ça en avançant de la semaine prochaine. C'est bien.
Véran, j'aimerais revenir sur un verset que tu as partagé, qui est Jean 8, le verset 46.
Oui.
Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi me croyez-vous pas? Je ferai un autre passage par rapport à ça, aussi dans Jean 8, pareil.
Oui.
Jean 8, la femme adultère. On ne lira pas tout, là, à partir du
Oui.
verset 7.
Oui.
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il s'étant d'un nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. On voit ici, le Seigneur a répondu par une réponse qui était véridique, que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle, qui était accusé par leur péché. Ils n'ont pas pu jeter la pierre parce que leur péché les accusait. Puis ils sont tous en. Ça fait toute une différence avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est parfait. En toute, une personne parfaite, sans péché, quand il était sur la terre, il a tout accompli la volonté de Dieu, la loi de Dieu au complet. Puis les dernières paroles à la croix, il a dit, le sacrifice est accompli. Il a dit, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. On voit
C'est
le
ça.
Seigneur qui est. La perfection, c'est une personne unique dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, vous pouvez ajouter un petit peu par rapport
Oui. Comme les autres, quand ils ont parti, le Seigneur est resté, lui, parce qu'il était seul, qu'il était sans péché.
ça. Ouais, c'est ça.
C'est le
Ouais.
seul qui aurait pu lui lancer la pierre, mais il a fait miséricorde. Les autres aussi, ils avaient besoin de miséricorde autant que la femme adultère. Mais
On
elle
voit
a eu miséricorde.
le Seigneur, quand il est venu sur la terre la première fois, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver.
C'est ça, exactement. Ouais.
Jean 3, le verset 17.
Ouais.
C'est le temps de la grâce, le temps de la grâce continue encore aujourd'hui.
C'est
C'est
ça, ouais.
merveilleux. L'évangile, quand on s'arrête à ça, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Tu sais, quand on regarde la création que Dieu a faite, on peut voir la puissance de Dieu dans la nature. L'homme qui n'est pas sauvé peut admirer la puissance de Dieu dans sa nature. Mais la personne qui n'est pas sauvée ne peut pas voir la puissance de la croix.
Non.
C'est toute une dimension complètement différente. C'est une dimension céleste. Le Seigneur nous donne à nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, on a ce privilège-là de pouvoir avoir cette relation avec lui.
Oui, exactement. Ouais. Paul, c'est ça que Paul disait, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de
Oui,
Dieu.
ouais, c'est ça.
Une petite remarque
Oui.
pour ceux qui ont le travail de tondre des moutons. Hein?
Oui.
Le comportement de la brebis, hein? Elle se laisse tourner de tous bords. Elle dit pas un mot. C'est une belle image dans la Bible, il est question de ça, hein? Par
Ouais,
rapport
une
au
brebis.
Seigneur. Là. Moi, si j'approche un clipper électrique là, de ma jumelle, là,
Ouais.
ben, soyez certain qu'elle va sortir du barrage.
Oui.
Hein? Au venin d'un chat. Alors, elle met le mouton, tu lui dis tout voir, tu vas le tomber, puis il dit pas un mot, hein? Il garde silence. C'est comme
Muet
ça que le
devant.
Seigneur a vécu la souffrance en silence.
C'est ça. C'est comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
Bon.
Dans Ésaïe 53. Ah, c'est merveilleux, là. On se réjouit avant d'être humilié. On ne peut pas se réjouir, mais quand on s'est humilié puis qu'on a reçu le salut de Dieu par la foi, là, on peut se réjouir dans l'humilité. On ne peut pas s'enorgueillir.
Quand il a créé les animaux, sûrement, là, quand il était question de la brebis, là, il y avait une idée derrière la tête.
Ben oui,
Hein.
c'est ça.
Parce que c'est pas tous les animaux qui ont le comportement d'une brebis.
Non, non,
C'est
non.
toujours docile,
Ouais.
c'est doux, ça n'a pas de
Ben
malice.
Ah, le temps est venu, ça qu'on va peut-être terminer par un mot de prière pour ceux qui doivent partir. Puis, s'il y en a qui veulent continuer, on peut jaser encore un peu. Ça que, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ton plan de rédemption qui est si merveilleux. Nous, Seigneur, qui avons connu la grâce que tu nous as fait, Seigneur. On sait qu'on a dû s'humilier, se reconnaître perdu devant toi, Seigneur, mais on a reçu un don si merveilleux, une puissance dans notre vie, notre Dieu, le salut parfait accompli par quelqu'un d'autre qui est mort à notre place. On te remercie pour le Seigneur Jésus. On te remercie que par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui étaient là ce soir. On te demande qu'on puisse être bénis dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.